Sommes heureux quand vous l'êtes. Maxizo, tout pour vos animaux. Réélu meilleure chaîne de magasins 2024, catégorie animalerie, aliments pour animaux. Offre valable jusqu'au 8 mai en magasin et sur maxizo.fr.
Renault. Le prix du carburant augmente, mais vous n'êtes pas prêt à passer à l'électrique. Faites des économies avec la motorisation Renault E-Tech Full Hybrid. Jusqu'à 40% de consommation de carburant en moins et jusqu'à 900 km d'autonomie. En ce moment, Renault Clio E-Tech Full Hybrid est à partir de 210€ par mois.
Clio Evolution E-Tech Full Hybrid 145 hors option. LLD 37 mois 30 000 km. Premier loyer 3 000€. Offre à particulier du 1er au 31 mai si accordiac. Voir conditions sur Renault.fr. Pensez à covoiturer.
Se faire plaisir, toujours au bon prix, chez Auchan. Jusqu'à samedi, le kilo de pommes Pink Lady est à seulement 1,99€.
À ce prix-là, je tombe dans les pommes.
1,99€, c'est un prix qui ne rigole pas.
Et en plus, elles sont origine France.
Comme toutes nos pommes, c'est ça, le pouvoir d'acheter français chez Auchan. Auchan, avec plaisir. 1,99€, le kilo de pommes Pink Lady, origine France, variété Crips Pink, catégorie 1, calibre 170, 201 grammes. Existe en Barquette Kids ou 6 fruits. Valable dans vos magasins et drive, Auchan participants et en livraison à domicile.
Attention, moi je ne dis pas qu'il faut choisir absolument Rénoval.
Bien sûr, monsieur Génial.
Non, je dis juste qu'il y a des personnes dont je fais partie qui préfèrent faire confiance à des gens compétents, à l'écoute, qui feront un travail irréprochable avec des matériaux de qualité. C'est tout ce que je dis.
En ce moment, chez Rénoval, la TVA est offerte. Conditions sur Rénoval.com. Ma pergola, ma véranda, c'est Rénoval.
Point final.
RTL.
RTL, il est 13h.
Jusqu'à 14h30,
les auditeurs ont la parole
avec Éric Brunet sur RTL.
2 milliards d'euros, c'est la somme qu'ont rapporté les radars en 2023. Bonjour Alain. Bonjour mon cher
Bonjour
Alain.
Bonjour Éric. Bon, bonjour Éric.
C'est une bonne chose ces radars finalement.
Ah, comme contribuable, trouver 2 milliards pour limiter l'endettement, c'est une bonne chose. Mais pour ceux qui doivent utiliser un véhicule pour aller au travail, c'est un impôt sur le travail.
Ouais, je suis pas loin de penser comme vous. Restez avec nous, s'il vous plaît, mon cher Alain. La question est simple, hein. Est-ce que vous pensez que les radars ne sont qu'un moyen pour l'État de collecter de l'argent? Ou est-ce que vous vous dites, bon, finalement, on est des râleurs, mais finalement, ça sert, c'est dissuasif? Il est là, le débat, et c'est là-dessus que je veux vous entendre. À tout de suite, mes chers auditeurs, auditrices. Tout de suite, c'est le rappel des titres avec vous, Céline Landreau.
Emmanuel Macron évoque à nouveau la possibilité d'envoyer des troupes au sol en Ukraine. Dans les colonnes du journal The Economist, le président français assure qu'il faudrait se poser la question si Moscou perce les lignes de front et que Kiev le demande. Le patron de la SNCF, lui, va devoir s'expliquer. Jean-Pierre Farandou, convoqué par Bruno Le Maire après l'accord sur les fins de carrière, un moyen de contourner la réforme des retraites ? Oui, a répondu tout à l'heure sur RTL Fabien Villedieu, délégué syndical Sudrail. Et puis, on vous le disait dans les journaux, une femme de 57 ans est décédée la nuit dernière, victime des intempéries. Sa maison a été détruite par une coulée de bois à Courmel, dans l'Aisne. Dans le même temps, le vignoble du Chablis lui a été particulièrement touché par la grêle. Les vignerons constataient ce matin des dégâts. La météo, justement, Peggy, c'est un peu plus calme, mais ça reste très humide. Hein.
Oui, ça reste bien pluvieux, même si on aura quelques orages en soirée et cet après-midi sur la Corse et en soirée sur le Grand Est. Ils seront quand même moins forts, mais on a des pluies continues encore cet après-midi entre la région PACA en remontant vers le Grand Est, en allant vers l'Île-de-France et la Normandie. Des pluies qui seront d'ailleurs localement soutenues vers le Lyonnais et sur l'ouest du pays entre la Bretagne, les Pays de la Loire, le Massif central en allant vers le sud-ouest. Là, c'est un ciel de traîne, alternance entre nuages, éclaircies, quelques averses, des averses qui seront plus fréquentes sur une bonne partie sud-ouest du pays et donc quelques orages, je vous le disais, également sur le relief des Pyrénées et sur le Grand Est et la Corse, et de la neige en montagne à basse altitude, tout ça sous des températures qui sont encore sous les normales de saison. Ça baisse bien, notamment à l'Est, de 12 à Clermont-Ferrand, à 19 à Strasbourg, 17 à Perpignan et Lille, 16 à Montpellier, 15 à Nîmes et Nantes, 14 à Paris et Tours et 13 degrés à Bourges.
Et nous rappelons que nous sommes le 2 mai. Hein.
Exactement.
Oui, donc, j'étais en train d'y penser.
Pour le beau temps, c'est pas pour maintenant.
Nous sommes le 2 mai. Peggy Broche, ça vous ennuie pas de rester avec nous parce qu'on va être avec des victimes des intempéries dans les minutes qui viennent dans les auditeurs. Vous restez ?
Je reste.
Merci. Eh bien, vous êtes libérée, vous, Céline Landreau.
Libérée, délivrée. Et à demain, alors.
À demain, midi. Bonjour à vous, Lisa-Marie Marquez.
Bonjour, Éric. Bonjour à tous.
Merci d'être avec nous. J'accueille également Christophe Bourou, spécialiste automobile d'RTL. Et puis, c'est Turbo sur M6. Et on est très heureux que vous soyez avec nous.
Merci, bonjour à tous.
Cher Christophe, pour répondre sur cette question des radars. Je reprends Alain, là, qui est avec nous. Alain, donc vous... Sur la question des radars, elle est centrale. Hein. 2 milliards d'euros, c'est quand même l'argent que ils nous ont rapporté ces radars à nous, les Français, la France, la puissance publique, l'État, l'année dernière. Et finalement, qu'est-ce qu'on se dit ? Allez, on se dit on arrête d'être des râleurs et finalement c'est une bonne chose ou c'est vraiment qu'une pompe à fric ? Alain, il est là le débat. Hein.
Bonjour à tous. Bah, c'est vrai que quand on est automobiliste, c'est toujours rageant de se faire piéger. C'est surtout l'impression de se faire piéger. Quand vous avez une route entre Dijon et Beaune, 42 changements de vitesse en 36 km, ça devient un sport. Il faut vraiment être à deux dans la voiture pour regarder le compteur, rectifier la vitesse réelle, regarder l'application, vérifier la vitesse. C'est compliqué de regarder la route. Hein. On passe notre temps à chercher la vitesse et à calculer où est le changement de vitesse.
Je suis assez d'accord, Christophe Bourou. Qu'est-ce qu'on peut dire philosophiquement de tout ça ? Parce qu'on râle tous. Moi, on râle tous, mais est-ce que finalement la peur du radar est une dissuasion très utile qui sauve des vies ?
C'est en tout cas l'argument du gouvernement. Il y avait 7200 tués il y a 20 ans. C'est-à-dire le moment où on a installé le tout premier radar en France, aujourd'hui, c'est 45% de tués en moins. Donc le chiffre est quand même impressionnant.
Mais la progression, les voitures,
effectivement, les voitures ont beaucoup progressé, et ça on en parle peu, c'est-à-dire que maintenant vous avez l'ABS, vous avez un certain nombre, le freinage d'urgence, de systèmes qui sont mis au point dans les voitures, qui sont beaucoup plus sûrs, mais voilà, s'oppose entre le gouvernement et les associations automobilistes, toujours les mêmes arguments, soit c'est un pompe à fric, soit effectivement ça sauve des vies. Il faut savoir quand même que, à mon avis, le débat est plus sur l'emplacement des radars. Je pense que les radars sont utiles, mais ça dépend où ils sont placés. Et effectivement, il y a des endroits où ils n'ont pas lieu d'être, où ils sont juste là pour faire de l'argent. D'autres endroits où ils sont importants. Voilà, le débat est là. Il faut savoir quand même qu'en 20 ans, les radars ont rapporté 14 milliards d'euros à l'État. La Cour des comptes pointe du doigt, les éléments sont très importants, que 62% des crédits sont utilisés au profit d'actions liées à la sécurité routière et le reste, c'est-à-dire à peu près 40%, au désendettement de l'État.
Mais je croyais, Christophe Bourou, qu'en France, on ne pouvait pas flécher les ressources publiques. C'est-à-dire, quand on dit, tiens, l'argent qu'on va gagner avec telle initiative, on va le mettre au service des victimes de l'alcool. On m'a toujours dit que ça n'existait pas en France.
En tout cas, pour flécher les radars et pour la sécurité routière, c'est vraiment fléché. Parce
d'accord.
que c'est tellement polémique que finalement, tous les ans, la sécurité routière rappelle ces chiffres. Elle rappelle aussi la sécurité routière que en face des 2 milliards, on peut opposer 50 milliards d'euros. C'est ce que coûte chaque année l'insécurité routière en France.
Oui.
Donc, c'est deux chiffres qui s'opposent. Voilà.
Oui. En tout cas, deux choses importantes quand même sur les vies économisées. Un, on ne parle pas assez des progrès considérables de l'automobile.
C'est vrai,
voilà,
c'est
aujourd'hui,
bien
c'est la 404 et la R16, c'est fini. On a des véhicules tellement plus fiables. Et puis, l'autre chose qui est très agaçante, Alain, c'est le radar. Ok, on peut l'accepter philosophiquement, bien sûr. On l'accepte même, mais quand il est destiné à piéger, et il y a vraiment des implantations qui sont louches, Alain, là, c'est très agaçant, Alain.
Alors surtout dans les villes qui sont dirigées par des maires écologistes, nous ici à Lyon par exemple sur l'autoroute A7 entre le nœud de Ternay et Fezin, ils ont rabaissé la vitesse d'une 2x3 voies 50 km/h aux heures de pointe. Tout ça parce qu'ils ont voulu libérer la voie de gauche pour du covoiturage et ils se sont rendus compte que comme il y avait des bouchons sur la voie de droite et la voie du milieu et que les voitures sur la gauche roulaient trop vite, allez, on rabaisse toute la vitesse à 50 km/h. Mais à 50 km/h, on ne regarde même plus ce qu'il y a devant. On cherche à s'occuper avec son téléphone.
Restez avec nous, Alain. J'aime bien Alain parce qu'il est très précis. Hein. Il nous donne des routes, des axes, des tronçons routiers. C'est bien d'être précis comme ça. Mathieu est là également. Bonjour Mathieu.
Bonjour tout le monde.
Vous êtes dans quel coin de France ?
Toulouse.
Les auditeurs ont la parole à Toulouse dans une poignée de secondes. À tout de suite.
Contactez-nous gratuitement via l'appli RTL ou au 3210.
50 centimes la minute. On en parle.
L'insuffisance cardiaque est une maladie invisible qui touche plus d'1,5 million de personnes en France. Reconnaître les signaux d'alerte est essentiel pour la détecter et la prendre en charge. On en parle avec Sandrine, dont le père souffre d'insuffisance cardiaque. Bonjour.
Bonjour.
Alors, tout a débuté par une fatigue inhabituelle de votre père, c'est bien ça ?
Oui. Depuis quelques temps, j'avais remarqué qu'il manquait d'énergie, même pour le bricolage, qui est sa passion. Et puis, il était vite essoufflé, y compris pour des tout petits efforts.
Est-ce que vous aviez observé d'autres changements chez lui ?
Un jour, j'ai vu que ses chevilles avaient gonflé, ouais. Et il avait même la marque des chaussettes, vous voyez. Et c'est là que je me suis souvenu que ces symptômes pouvaient être des signes d'insuffisance cardiaque.
Et vous avez réagi comment alors?
Je lui ai aussitôt dit de prendre rendez-vous chez son médecin, et j'ai bien fait parce que le diagnostic a été immédiatement confirmé et il a évité des complications graves. Depuis, il est pris en charge et il va bien. Ouf. Il a même pu se remettre au bricolage.
Merci beaucoup.
On en parle. Pour en savoir plus sur l'insuffisance cardiaque, rendez-vous sur amélie.fr.
Exclusif en clair sur M6. Vivez la demi-finale aller de l'UEFA Europa League Olympique de Marseille Atalanta Bergame. L'objectif pour les Marseillais sera de remporter ce match à l'Orange Vélodrome et espérer ainsi se qualifier pour la finale lors du match retour. La demi-finale Olympique de Marseille Atalanta Bergame, commentée par Xavier Domergue et Jean-Marc Ferreri, c'est ce soir à 20h50 sur M6.
Lidl, réélu encore et encore, meilleure chaîne de magasins de l'année dans la catégorie fruits et légumes.
Allô patron, il est à 79 centimes.
Le concombre ?
Très oui, en ce moment chez Lidl, le concombre est à 79 centimes la pièce.
Ils sont encore et toujours moins chers que nous.
Et le deuxième est à moins 50%, soit 39 centimes le concombre. Ça revient à 1,18€ le lot de deux.
Oh, ils encombrent vraiment pas, on est mal.
Bah c'est le concombre.
Lidl, partenaire officiel de l'UEFA Euro 2024. Catégorie 1, Origine France. Plus d'informations sur Lidl.fr.
Bonjour les amis, c'est Laurent Deutsch.
Entrez dans l'histoire, la quotidienne, dans RTL Matin.
Demain, je vous parlerai des ombres et lumières d'une des plus grandes civilisations de l'humanité, celle d'un pays, l'Iran.
L'Iran, comme on dit là-bas.
Entrez dans l'histoire, la quotidienne, avec Laurent Deutsch, tous les jours à 7h20.
À demain.
Les auditeurs ont la parole, avec Éric Brunet, sur RTL.
Concernant donc la question posée sur les radars en France, eh bien moi je vais donner mon avis par rapport à la région sur laquelle je circule beaucoup. Alors, Figeac-Aurillac, 80 à l'heure, une route nationale magnifique, droite, tout. Et bien entendu, dès qu'on dépasse ce 80 à l'heure, on chope un contrôle. Voilà. Et c'est une route, je peux vous dire que Figeac-Aurillac ou Aurillac-Figeac, quand j'arrive à destination, le sommeil m'a pris, hein. À rouler à 80 à l'heure sur des routes comme ça, c'est vraiment de l'arnaque.
Voilà, on est du côté du Cantal.
Un message de Bernadette sur le répondeur.
Pourquoi est-ce qu'on parle de ce sujet-là, rapidement, Lisa Marie?
On parle des radars, on parle surtout des recettes liées aux amendes routières en France. On nous a appris, le rapport annuel de la Cour des comptes nous a appris que ces recettes ont dépassé les 2 milliards d'euros pour l'année 2023. Je précise que ça regroupe toutes les infractions routières, y compris les radars. Et justement, il y a de plus en plus de radars automatiques. Et ces radars automatiques, ils ont en rapporté à eux seuls 747 millions d'euros.
Mathieu est avec nous, mon cher Mathieu, bonjour.
Bonjour, bonjour Christophe, Christophe aussi, pardon.
Bonjour Mathieu.
Et donc, moi je savais plus de 20 ans que je suis dans le transport. Donc forcément les radars, on les connaît depuis le début. Le truc c'est que, pour répondre simplement à la question, oui, c'est une pompe à fric. Parce que là maintenant, ils ne servent même plus à prendre que la vitesse de toute façon. Parce que là maintenant, on cherche maintenant le téléphone, la ceinture. On cherche même les nouveaux, là, ils sont en train de chercher là pour maintenant l'usure des pneus. Donc là, maintenant, c'est un truc qui vient... C'est vraiment de prendre du pognon pour prendre du pognon. Surtout que, si vous regardez bien, maintenant, je connais pas quelqu'un qui roule pas sans les applications Waze ou Coyote.
Oui.
Donc maintenant, on les voit arriver, les radars, on sait où ils sont. Donc chaque fois qu'on s'est fait pesquer, chaque fois, c'est pour des petits kilomètres heure. Donc c'est pas pour des grands excès de vitesse. Donc c'est purement, oui, pour répondre à la question, c'est purement pour du pognon. Parce que ça rapportera, et ça rapportera toujours, de toute façon. Après, par rapport aux morts, je suis moins crédible par rapport à ça. Dans les années 90, la fin de 90, je crois que c'est Chirac, c'est ça, qui a mis en place ce nouveau radar. Donc là, ça a dû avoir son effet. Ça, c'est clair et net. Ça a dû ralentir un peu tout le monde. Mais par rapport au nombre de morts, non, moi, je suis vraiment pas sûr que ça a vraiment ralenti tout ça. Et en plus, il y a Christophe qui en parlait tout à l'heure, justement, de nombre de morts. Il y a un truc qu'on n'a jamais évoqué par rapport à ça et qui, moi, me chagrine parce que, étant donné dans le transport, ça me... Voilà. C'est par rapport au nombre de morts qu'il y a eu, par exemple, on se base sur les années 70-80, où on dépassait les 10 000, 10-15 000, et aujourd'hui, on arrive quand même à 2500. Donc, je pense que l'effort, les automobilistes français l'ont fait énormément. On prend en considération aussi l'évolution de la voiture, de nos routes, tout ça. Mais il y a un truc qu'on n'a jamais pris en compte depuis les années 70, c'est le coefficient du nombre de voitures, de véhicules sur nos routes, qui est juste passé par multiplié par 5 ou par 6. C'est-à-dire que de 7 millions d'automobiles des années 70, on est passé à pratiquement 40 millions aujourd'hui. Donc, on s'acharne surtout sur la vitesse, tout ça, mais je pense que le Français a largement fait l'effort Là, maintenant, le nombre de morts par rapport aux années d'avant, enfin, voilà. Je pense qu'on a, on a fait
moi, je suis convaincu que, bon, la vitesse est un élément, mais il faut qu'on parle également de la ceinture de sécurité par rapport aux années 70. Voilà. Il faut qu'on parle de la qualité des voitures. Comme la voiture, c'est les constructeurs, que les constructeurs, c'est le privé, etc., que c'est pas des politiques publiques, on néglige toujours d'évoquer, du côté de la prévention routière, par exemple, les constructeurs. La réalité, c'est que, mon Dieu, mais une Sim Camille et une Peugeot 3008, c'est...
Avec tous les ABS ou tous les... Oui, alors le problème aussi, je pense que, à mon avis, il y a un plafond qui est en train de se faire sur le nombre de morts, puisqu'on n'arrive pas à diminuer, passer en dessous des 3000 qui était l'objectif. Pourquoi ? Parce que en fait, il n'y a pas que la vitesse. Il y a aussi l'alcool, il y a aussi la drogue, il y a aussi l'endormissement au volant. Par exemple, sur autoroute, l'endormissement, c'est la première cause de mortalité. Donc, je pense que tous ces éléments ne sont... Voilà, on a tout mis sur le radar, ce qui est peut-être une bonne chose ou pas, en tout cas, il y a un débat, mais tout le reste a été un peu négligé ces dernières années parce qu'on a tout mis sur la vitesse. Or, il y a d'autres facteurs d'accident qui sont extrêmement importants et qui sont moins contrôlés. On ne va jamais contrôler aussi les distances de sécurité, par exemple sur autoroute ou sur route. Et tous ces facteurs sont des facteurs importants d'accident et qui ne sont pas finalement pris en compte. Par exemple, combien de fois, Eric, vous avez été contrôlé pour alcoolémie sur la route versus le nombre de fois que vous êtes contrôlé avec un radar ?
Jamais.
Voilà, moi, ça m'est arrivé une seule fois. Pourtant, je roule beaucoup. Une seule fois, j'ai dû souffler dans le ballon. Ça fait des années que je conduis, et en plus, beaucoup, puisque je suis journaliste automobile. Donc. Mais voilà, alors que le nombre de radars, on en croise tout le temps. Voilà, c'est juste un petit exemple pour montrer que c'est compliqué et que finalement, c'est peut-être là aussi la polémique. C'est en fait, on met tout sur la vitesse et moins sur les autres facteurs d'accident.
Frédéric a fait le 32-10. Bonjour Frédéric.
Bonjour.
Où êtes-vous Frédéric ?
Bonjour Frédéric.
Là, je suis actuellement, je suis à Villiers-sur-Marne.
On est dans quel département, Villiers-sur-Marne ?
C'est le Val-de-Marne. Je me dirige vers chez moi en Seine-et-Marne.
D'accord. On est en Île-de-France. Frédéric, je vous écoute. Vous avez fait le 32-10.
Alors oui, j'avais appelé pour expliquer que je vois beaucoup de radars qui sont mis beaucoup plus pour la rentabilité que pour la sécurité. Je cite un exemple. Quand vous sortez de l'autoroute A4 pour aller au centre commercial régional de Val d'Europe, vous avez une sortie qui est à deux voies parce qu'elle est grande et un virage traître. Donc on peut aisément rouler à 100-110 hein, sans problème. C'est limité à 70, donc on roule à 70. Mais en sortie de virage, vous avez en visuel un panneau 90. Donc vous pouvez retourner à 90 km/h, mais à peine 50 mètres avant, ils mettent un radar pour vous flasher à 70 km/h. Voilà, donc pour moi, ça c'est de la rentabilité, c'est 0% sécurité, parce que déjà, on peut rouler plus vite, mais on le ferait pas parce que c'est 70, mais on se fait flasher parce qu'on voit le panneau 90 et on commence à accélérer en sortie de virage et bing, on se fait flasher.
Vous avez tellement raison Frédéric, moi il m'est arrivé la même chose sur l'autoroute Bordeaux-Paris, toujours autour de Tours avec les travaux pharaoniques qu'il y a autour de Tours, on passe de 130 à 80 km/h en 50 mètres, et alors bon, vous décélérez, et bien évidemment, juste après le panneau qui vous dit de rouler à une vitesse plus réduite, il y a un radar, et le temps de décélérer, plein de fois, les gens se font avoir. Et ça, c'est typique de la volonté de piéger. C'est typique de la volonté de piéger.
Ça rejoint un peu l'enquête qu'on a sortie cette semaine avec Coyote. 17 changements de radar, 17 changements de vitesse tous les 100 km en France, en moyenne. Parfois, c'est plus 34. Manque de visibilité, c'est-à-dire que pour les automobilistes, en étant de bonne foi, on ne sait jamais quelle vitesse rouler. Ça, c'est un véritable problème. Même les associations, la prévention routière, dit qu'il faut plus de clarté pour qu'on puisse enfin rouler à des vitesses entre guillemets compréhensibles sur les routes.
Clarté, vous avez raison. Et Frédéric, vous finalement, Frédéric, vous n'êtes pas un anti-radar au fond, Frédéric.
Non, pas du tout, parce que je vais vous dire, je respecte la sécurité. Ça fait plus de 40 ans que je conduis, j'ai jamais eu un accident. J'ai conduit des poids lourds pendant 10 ans, j'ai jamais eu un accrochage, un accident. Je conduis tous les jours, je n'ai jamais eu d'accident.
Vous n'êtes pas anti-radar, vous êtes anti-radar implanté à un endroit pour piéger et devenir une cache-machine, c'est ça ?
Et je peux juste vous citer un autre exemple.
Alors attendez, restez avec nous si vous voulez un autre exemple. Je vous repasserai la parole. Et on sera avec Eddy. J'ai l'impression qu'il est plutôt pro-radar, Eddy. Tiens, on l'écoutera dans une minute. Mais je vous reprendrai, Frédéric. À tout de suite.
13h, 14h30.
Les auditeurs ont la parole.
Avec Éric Brunet sur RTL.
On en parle.
La filière bovine s'engage à vous offrir une viande de qualité et plus durable. On en parle dans un instant avec Olivier Boula, qui est éleveur à Belvezet, en Lozère.
Chez Poltrone Sofa, la qualité se voit, mais surtout, elle se ressent. Caressez le cuir du canapé Bormida et détendez-vous avec son relax électrique.
Jusqu'à samedi, il est remisé de 40%. Il ne coûte que 1184 euros.
Venez les ressentir en magasin. Poltrone Sofa, solo divan et di qualità.
Et voilà.
Uniquement des canapés de qualité, vérifiez conditions en magasin.
La vie claire.
Voulez-vous une offre bio qui vaut vraiment le goût? En ce moment, chez La vie claire, profitez de moins 15% sur tous nos pains bio, dont nos 22 recettes exclusives. Et dès 30 euros d'achat, on vous offre un pain sportif. Alors, ça vaut le goût ou pas?
La vie claire, la bio clairement engagée.
Offre limitée à une personne et par foyer. Voir conditions sur lavieclaire.com. Pour votre santé, évitez de grignoter.
13h, 14h30.
Les auditeurs ont la parole.
Avec Éric Brunet sur RTL.
Bonjour, c'est Corinne. Je voulais simplement vous dire qu'à propos des radars, j'étais tout à fait favorable à leur développement. Je trouve même qu'il n'y en a pas suffisamment. Pourquoi? Tout simplement parce que les gens préfèrent payer souvent, mais pouvoir rouler. Or, ça, franchement, c'est catastrophique. Donc, je préfère qu'il y ait plus de radars, qu'ils soient plus condamnés, et peut-être que ça ramènera un peu de sécurité routière. Bonne journée.
Ah, ben vous voyez que tout le monde ne considère pas que les radars, c'est des pièges. Corinne vient de nous dire, en laissant ce message à l'instant, qu'elle en voulait davantage. Qu'est-ce que ça dit du côté du standard, mon Victor ?
Écoutez, on commence avec le message de Bruno à Lille qui nous dit « Écoutez, les Français, ils ont choisi de donner ces 2 milliards, ils n'avaient pas qu'à être en infraction. Chacun choisit de ce qu'il fait de son argent, il faut assumer derrière. Catherine à Herblay, les radars sont d'abord là pour nous sauver la vie, non ? Moi, je le prends comme ça, je fais attention à ma vitesse et puis comme ça je n'ai pas d'amende. Et puis on termine avec Alain Commercial à Nancy, je fais 70 000 km par an, je respecte les vitesses et je ne fais pas moins d'affaires pour autant, il y a des règles, il suffit de les respecter.
Très intéressant, il y a plus de pro-radar que je l'imaginais, Stéphane, ça veut dire que les temps changent quand même. Christophe,
je regardais Eric en me disant, mais oui, mais c'est vrai qu'il faut aussi être honnête et il faut rapporter. Je redonne les chiffres. Il y a 20 ans, il y avait 7200 tués sur nos routes. Ouais. Aujourd'hui, c'est 45% moins. C'est encore énorme. Mais les radars ont quand même calmé les vitesses sur nos routes. Elles ont diminué, je crois, en l'espace de 20 ans, de l'ordre de 10% les vitesses. On roule quand même moins vite. Et il faut savoir que à partir du 1er juillet, il va y avoir une petite révolution sur nos routes puisque nos voitures neuves seront équipées d'un système qui vous fera ralentir automatiquement, qui sera relié au panneau de signalisation. Par exemple, si c'est limité à 130, votre voiture va immédiatement ralentir. Ça aussi, ça devrait aller dans le bon sens, même si beaucoup sont contre cette mesure. Mais en tout cas, c'est une mesure européenne qui va être mise en place. Automatiquement, votre voiture, neuve pour le moment, va appliquer les limitations de vitesse. Et ça, je peux vous dire qu'à partir du 1er juillet, j'imagine que ça va faire beaucoup réagir nos auditeurs parce que c'est une mesure qui est particulièrement forte.
13h22, RTL, les auditeurs ont la parole. Christophe Bourou, c'est celui qui vient de parler, spécialiste auto RTL, et vous le voyez bien évidemment sur Turbo, sur M6. Eddy a fait le 3210, c'est 2 milliards d'euros qui ont... ce qu'ont rapporté les radars en 2023. Est-ce que c'est une pompe à fric ou est-ce que c'est utile et dissuasif, les radars? Eddy, bonjour, oui. Mon cher Eddy.
Bonjour, Eric. Donc, pour résumer, moi, ça fait mon 9e permis. Il était annulé 8 fois. Donc, ma femme en avait ras-le-bol. Moi, j'avais un compte au Trésor public. J'avais un compte, voilà. Donc, ça se mettait au bout.
Votre permis de conduire, Eddy, a été annulé 8 fois?
Oh, mais il y a pire que moi, je pense. Je suis pas un cas désespéré. La preuve, c'est que je suis forcé de constater que, justement, les radars, moi, ils m'ont maté. Moi, maintenant, j'ai mes 12 points. Je paye plus d'amende parce que je fais attention et j'aurais dû faire attention depuis bien longtemps. Et voilà, ça m'a coûté, dans les 2 milliards, j'ai bien dû donner au moins, je sais pas, j'aurais pu m'acheter une maison. J'aurais pu m'acheter une maison, bah pas bien. Avec toutes les amendes qui étaient payées. Alors c'était pour vous dire aux auditeurs que, bah oui, s'ils veulent pas d'amende, ils ont juste à respecter les limitations de vitesse. Bon, c'est vrai que des fois, ça change beaucoup. Bon, ça, ça serait un truc à voir, quand même.
Mais maintenant que vous, après avoir eu votre permis supprimé 8 fois, maintenant que vous respectez les vitesses, est-ce que vous êtes conscient du fait que sur la route, il y a des fous ?
Bah, y en a moins qu'avant, parce que c'est vrai que t'en vois encore des chauffards, mais franchement, moi, je faisais partie des chauffards. Mais aujourd'hui, non, aujourd'hui, c'est vrai que ça a beaucoup changé. Et justement, c'est bien. Et moi, franchement, j'enlèverais les pancartes pour prévenir les radars. J'en ferai même encore plus de plus, parce que si les gens ne sont pas contents, bah, c'est qu'ils paient. Ils n'ont pas assez payé encore. Quand ils auront payé je sais pas combien, bah, peut-être qu'ils n'auront mal, bah, peut-être que vous arriverez à les mater. Moi j'étais un cas, ils m'ont maté. Bon, bah, je vois pas pourquoi ils ne materaient pas les autres. Hein. C'est normal. Moi, je trouve que c'est tout à fait normal. Et je vous dis, je les cacherai, moi, les radars. Je les cacherai. Et les gens, bah, ils feraient attention, ils rouleraient moins vite. Quoi, puis voilà. Mmh.
Voilà. Merci Eddy pour ce témoignage. Ben oui, c'est souvent le repenti hein, qui est plus dur. Eddy, il en fait partie des repentis. Il dit moi, j'enlèverai les panneaux qui signalisent la présence d'un radar sur une route. Lagdar a fait le 32-10, mon cher Lagdar. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes où, Lagdar ?
À Guémar.
On est où, Guémar ?
En Alsace, à côté de Colmar, entre Colmar et Célestat.
Entre Colmar et Célestat. Lagdar, bonjour. Que faites-vous dans la vie ?
Moi, je m'occupe d'un centre qui fait des récupérations de points.
Ah, le fameux stage où on va chez vous, dans votre centre, pendant 2 jours pour récupérer ces 4 points.
Tout à fait, monsieur.
Ah, très bien. Alors, moi, j'en ai fait 2 ou 3, un stage dans ma vie, dans ces centres-là. Il faut dire une chose, c'est qu'on voit quand même des cas. Hein. Il y avait des gens qui disaient, bon, ben moi, cette route, elle est limitée à 80, mais elle n'est pas dangereuse, je continuerai à la prendre à 130 à l'heure. J'ai vu quand même des sacrés numéros dans ces stages.
Et des sacrés dangers de la route. Voilà. Alors moi, je suis comme votre auditeur précédent, je serais d'accord à ce qu'il y ait un peu plus de radars, surtout sur les routes accidentogènes, parce que quand on voit le nombre de personnes qui viennent passer des stages qui sont pour dépassement de vitesse, excès de grande vitesse, et qui mettent la vie des autres en danger, c'est quand même assez flagrant que la répression n'est pas encore à la hauteur de ce qui se passe actuellement sur nos routes.
Oui. Alors, si je peux me permettre, le gouvernement n'est pas en train d'installer beaucoup plus de radars. Il y a une centaine de radars de plus en un an. On a 4600 radars aujourd'hui, mais ils sont de plus en plus performants. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, par exemple, hein, vous savez très bien, vous avez par exemple les radars, fameux radars tourelles. Il y en a 1333 en France. Ils prennent.
C'est quoi les tourelles?
Alors, vous savez, ceux qui sont au-dessus d'un mât et qui peuvent visualiser les deux sens de circulation et verbaliser dans tous les sens, c'est des véritables couteaux suisses, hein, parce qu'ils contrôlent le franchissement des feux rouges, les passages à niveau et la vitesse. Et puis, prochainement, ils pourront sanctionner le non-port de la ceinture ou le téléphone au volant. Donc, en fait, l'idée, c'est de davantage cibler toutes les infractions plutôt que de rajouter des radars sur nos routes. Et ça, c'est une véritable évolution qui va aller dans ce sens-là, dans les prochaines années et dans les prochains mois. Ce sont des radars de plus en plus sophistiqués. Vous savez, les bons vieux radars qu'on avait sur le bord des routes gris, là, ils sont en voie de disparition. Maintenant, ils sont redoutables. C'est-à-dire qu'ils arrivent, par exemple, à faire la distinction entre un poids lourd et un véhicule léger. Ça s'affine de plus en plus les radars sur nos routes aujourd'hui.
Lagdar, est-ce qu'il y a aujourd'hui une prise de conscience des automobilistes que vous voyez dans vos stages de récupération de points? Est-ce que c'est toujours des gens qui sont très hostiles au principe du radar, du contrôle, de la limitation de vitesse même, ou est-ce que il y en a de plus en plus qui vous disent « c'est vrai, j'étais dans un excès de vitesse inacceptable, j'ai déconné, c'est normal que je sois là ».
Bah pour avoir un pourcentage, 80% disent que les radars, c'est une pompe à fric, et 20% prennent conscience qu'ils ont fauté, donc ils payent.
Intéressant. Ouais. Très intéressant, cette stat.
Par contre, M. Bourou, quand il dit pour les radars tourelles, il a oublié une chose, c'est que maintenant, avec la nouvelle législation, ils vont pouvoir contrôler si le véhicule est assuré.
Oui, exactement. Depuis le 1er avril, on sait si, si votre voiture est assurée, ce qui est plutôt une bonne chose.
On est
d'ailleurs le dernier pays européen à mettre ça en place, mais effectivement, aujourd'hui, si vous êtes contrôlé, on sait automatiquement si votre véhicule est assuré ou pas. Ça, c'est vraiment une très bonne chose qui, à mon avis, va dans le sens de la sécurité routière, parce qu'il y a quand même des milliers et des milliers de personnes qui roulent actuellement. On parle d'un million de personnes qui roulent sans assurance en France, qui est énorme.
Ça, c'est absolument énorme. Délirant. Hein. Merci, Lagdar. Enfin, restez, mon cher Lagdar. William est là. Bonjour, mon cher William. William, m'entendez-vous ?
Allô ?
Ouais, William, bonjour. Vous êtes à l'antenne, dans les auditeurs ont la parole.
Allô.
Mais vous êtes là, William, on est là. Enlevez le...
Oui, merci, vous m'entendez ?
Très bien.
Oui, bonjour à tous.
Vous êtes où, William ?
Je suis un ancien responsable de formation auto, moto, école.
Bon, alors vous savez quoi ? Je vous reprends dans une poignée de secondes parce que là, il doit y avoir la radio derrière vous. Il y a un chambard, pas possible. On va régler ça et ça sera très audible dans une poignée de secondes. Mesdames, messieurs, 2 milliards d'euros, c'est ce qu'ont rapporté les radars en France en 2023. Est-ce que la peur du radar est une dissuasion, c'est bien ? Ou est-ce que c'est une pompe à fric ? À tout de suite.
Éric Brunet vous donne la parole sur RTL.
Avouez-le, c'est bien pratique les vélos électriques. Surtout quand les beaux jours reviennent et que vous rêvez de petites balades en forêt.
Comment ça, petites ?
Ok, alors pour les petites et les grandes virées, chez Decathlon, on a conçu un vélo tout chemin électrique avec une autonomie jusqu'à 100 km. Et pour vivre le sport grandeur nature, cette semaine, le vélo électrique Riverside 520E est à 999 € au lieu de 1399, soit 400 € de réduction. Décathlon, élu meilleure chaîne de magasins de sport de l'année.
J'adore l'athlétisme, pardon, mais on peut aimer des sports et les regarder.
Mais bien sûr.
Je vais regarder la gymnastique rythmique sportive pour laquelle j'ai une passion. Je vais regarder la gymnastique aux agrès. Et c'est pas parce que je ressemble à rien que je n'aime pas regarder le sport.
Est-ce que tu regardes le lancer du poids ?
Alors là, si j'en avais un dans la main,
non, je te plais.
Dans quelle direction il irait ?
Les grosses têtes, tous les jours à 15h30 sur RTL.
RTL, rire ensemble. 13h, 14h30.
Les auditeurs ont la parole
avec Éric Brunet sur RTL.
Lisa Marie, vous êtes entrée dans le studio, vous voulez nous lire des messages qu'on a reçus
Oui, je vais vous faire écouter surtout les messages du répondeur des auditeurs. Les orages ont été extrêmement violents hier soir sur une partie nord du pays. Les vignes du Chablis dans l'Yonne ont été très touchées. Corentin, viticulteur, a témoigné au 3210.
Bonjour, Corentin, viticulteur à Chablis. J'appelle pour témoigner de la violence de l'orage de grêle que nous avons attrapé hier dans la soirée. On a eu un petit peu plus de 45 mm de pluie et grêle mêlée en moins de 10 minutes. Des grêlons qui varient entre une balle de tennis et une balle de ping-pong selon les secteurs. Les vignes sont entre 80 et 90% ravagées pour donner suite à ce que j'ai entendu aux informations sur RTL et compléter l'information. Bonne journée, au revoir.
C'est complètement dingue, vous avez entendu la taille de grêlon entre la balle de ping-pong et la balle de tennis qui est énorme, des vignes dévastées entre 80 et 90%. Mesdames, messieurs, on va en parler, hein, des sinistrés de la météo de ces dernières heures. Vous pouvez appeler dès à présent, là, on va en parler dans 3 minutes, vous pouvez appeler dès à présent Victor qui vous attend au standard. Il y a une personne qui est morte dans une coulée de boue.
Oui, absolument.
Plusieurs départements, de nombreux départements ont été touchés, affectés. Je veux que nous parlions de ça. Je veux entendre des témoignages. Donc 3210, mesdames, messieurs, Victor et ses standardistes vous attendent dans les auditeurs ont la parole.
Valérie a quant à elle souhaité réagir à l'accord passé avec les syndicats de la SNCF sur les fins de carrière. Accord qui agace Bruno Le Maire et ça énerve encore plus Valérie.
Oui, bonjour monsieur Éric Brunet ainsi que Lisa Marie et toute votre équipe. Eh bien écoutez, moi je voudrais revenir sur la déclaration de monsieur Le Maire. Je reste, mais alors, interloquée par le fait qu'il découvre que M. Farandou a négocié des accords pour un départ à la retraite plus avantageux pour certaines personnes à la SNCF. Il n'était pas au courant, donc il va le convoquer pour voir avec lui comment cela va être financé. Mais de qui se moque-t-on ? Ce monsieur prend vraiment les Français pour des quiches ?
Ouais, réaction.
Faut quand même, je trouve que, là encore, je comprends cette colère. Il a sorti il y a quelques semaines, le ministre de l'économie, Bruno Le Maire, il a sorti un roman. Au moment où la France a failli être déclassée par les agences de notation et qu'on a découvert que nous avions un dérapage, un déficit budgétaire plus important que prévu. Et lui, il pérorait un peu en parlant de son nouveau roman. Enfin, moi, j'ai rien contre Bruno Le Maire, mais enfin, il cultive l'art du contretemps avec une certaine forme de dilettantisme qui est carrément inquiétant. Et on va revenir sur ce sujet.
On va revenir
sur ce sujet. Parce que franchement, que la SNCF puisse se permettre de dire finalement cette réforme de retraite, bah nous, on la veut pas, parce qu'on va s'organiser, on va se refaire un régime spécial. Et attention, hein, Monsieur Villedieu de Sudrail, tout à l'heure, sur RTL, a dit oui, ce que nous avons signé hier à la SNCF, c'est le retour d'un régime spécial pour nous. Bon, eh bien, nous allons en parler aussi aujourd'hui dans Les Auditeurs ont la parole. Merci pour ces deux messages.
14h30,
Les Auditeurs ont la parole
avec Éric Brunet sur RTL.
William a fait le 32-10 et mon cher William, rebonjour. Est-ce que vous êtes un anti ou un pro-radar ? Que faites-vous dans la vie, vous ?
Alors maintenant, je suis retraité. J'ai été 25 ans enseignant de la conduite, moto, auto, oui. BFF, etc. Vous m'entendez mieux ?
Très bien, mais arrêtez de dire que vous m'entendez bien.
Voilà.
La France vous entend, William.
Comme je disais à votre équipe... au niveau des panneaux, moi je suis totalement contre les limites, enfin pas contre les limitations de vitesse, mais voyez, après 25 ans professionnel de la sécurité routière, j'étais pas un marchand de permis, j'étais quelqu'un de sérieux, je faisais des arrêts d'urgence avec mes élèves, enfin bref, je veux pas raconter ma vie. Mais sachez, vous pouvez dire à vos collègues journalistes, personne n'est au courant. Monsieur Chirac, à l'époque, on considérait un accidenté de la route comme décédé 3 jours après les faits ou alors sur le coup. Mais ça a changé, ça a dû passer à 7 jours. C'est-à-dire, si vous décédez après 7 jours, vous n'êtes plus considéré comme mort sur la route.
Oui, et ça j'ai vu ça dans les statistiques, ça c'est important, ça Christophe Bourou, c'est vrai quand il y a des accidents, la prise en compte pour les statistiques, elle est assez complexe, parce qu'il y a des gens qui décèdent longtemps après, mais comme ils décèdent longtemps après, on ne considère pas qu'ils sont morts sur la route, ça c'est un truc un peu piégeux, qui biaise un peu les statistiques routières.
Et d'ailleurs il y a un chiffre assez terrible, mais que donnent les assurances, que finalement aujourd'hui, il y a davantage de blessés graves, puisque justement, les voitures sont plus sûres, donc ça évite le décès, mais ça coûte beaucoup plus cher. On parlait de 50 milliards d'euros, c'est ce que met en avant la sécurité routière. Il y a aussi un coût très important, parce qu'on parle des tués, mais on parle rarement des blessés. C'est terrible, les blessés sur les routes. Et aujourd'hui, effectivement, il y a des polémiques sur les calculs de morts sur les routes. Avec aussi le fait qu'on n'a pas les résultats immédiatement, parce qu'il y a des enquêtes qui sont réalisées, donc c'est très difficile d'avoir une photographie précise de ce qui se passe sur les accidents. Mmh. C'est-à-dire quand vous avez un accident, le temps que bien on analyse les accidents, c'est compliqué. D'où l'idée de mettre une boîte noire dans nos automobiles pour pouvoir avoir accès à toutes les informations et donner rapidement...
Comme les routiers.
Exactement, de ce qui se passe. Alors ça aussi, c'est polémique parce que, pour l'instant, personne n'en veut, mais c'est applicable. Donc tout ça fait que, depuis quelques années, c'est un peu... on va dire que c'est compliqué parce que on arrive à un espèce de plafond de verre, à un peu plus de 3000 morts sur les routes, on n'arrive pas à descendre. Et effectivement, je pense, c'est ce que je disais au départ, qu'on est très axé sur la vitesse, qui est un facteur important. Mais il n'y a pas que la vitesse, il y a aussi la preuve, hein, c'est que encore une fois, l'endormissement, l'alcool, la drogue, tout ça, ça fait partie des facteurs les plus importants dans les risques d'accident aujourd'hui sur nos routes.
Cédric, bonjour, où êtes-vous ?
Bonjour, là actuellement je suis sur Perpignan.
Perpignan, Pyrénées-Orientales, que faites-vous dans la vie ?
Je suis ingénieur des ventes dans le domaine de l'électricité.
D'accord. Quelle est votre perception ? Le débat est simple, ces radars qui nous font râler ont-ils une vertu dissuasive ? Bravo, merci les radars. Ou est-ce qu'au contraire, ça reste et ça restera des pompes à fric ?
Alors, je vais nuancer mon propos, moi, par rapport à ce que vous dites. De la manière dont ils sont faits, c'est purement du pompage à fric. Mais je ne suis pas contre les radars. Je m'explique. Je fais en moyenne 60 000 km par an. Donc j'en vois, j'en croise des radars. Et le gros souci, c'est qu'on a l'effet accordéon, c'est-à-dire que les personnes vont à fond. Les détecteurs aujourd'hui de radars, enfin les différentes plateformes qui existent, légales et moins légales, vous signalent les radars. Donc les gens pilent, freinent et ils redémarrent de la même manière à fond de l'autre côté, que ce soit sur des nationales ou sur autoroute. Hein. Aujourd'hui, moi quand je traverse des endroits où il y a des radars tronçons, pour le coup, là par contre, on a vraiment un ralentissement général et là c'est efficace. Donc vraiment, si on voulait vraiment faire uniquement de l'action sur la sécurité routière, on mettrait des radars tronçons. Et moi, je suis pour ça. Je suis vraiment pour les radars tronçons parce qu'on a vraiment un effet dissuasif qui est vraiment présent. Et là, vraiment, ça c'est. Ensuite, je voudrais rajouter une chose. En plus de mon travail, je suis gendarme réserviste, donc dans la gendarmerie opérationnelle. Hein. Donc je donne 30
bravo à 40 monsieur
par an.
bravo monsieur bravo franchement bravo pour ces dizaines de milliers de Français qui sont réservistes dans les armées ou à la gendarmerie, on n'en parle jamais
et
bravo.
Et donc je travaille régulièrement en brigade motorisée donc pour vraiment pour la sécurité routière pour le coup. Vous voyez là ce week-end j'ai 5 jours d'affilée où j'y suis. Eh ben on fait énormément de contrôles radar et vous savez pour le coup on s'embête pas avec des gens qui roulent 10 km/h en dessous parce qu'il y a tellement de gens qui roulent mais à des vitesses folles. Moi mon plus gros 196 km/h retenu au lieu de 90 km/h sur une nationale. Vous imaginez?
Vous êtes en train de me dire que vous êtes en train de me dire que vous quand vous avez un type qui a 84 pour 80, vous vous embêtez pas avec ça?
Mais non, parce qu'en fait, si vous voulez, on va lui retirer un point et quelques euros. Par contre, pendant que cette personne, on s'occupe de ce dossier, parce qu'à chaque fois, on doit interpeller la personne et donc après, on fait la procédure. Mais pendant ce temps-là, on va en croiser 2-3 qui font 20 km/h, 30 km/h au-dessus.
Ouais.
Donc, si vous voulez, quand on dit oui, la vitesse, c'est pas bien et tout ça, oui, c'est vrai, c'est pas bien, c'est un facteur aggravant, mais il y a énormément de gens encore qui roulent très vite. Vraiment, je le vois moi quand je suis en gendarmerie, je le vois quand je suis sur la route en tant que commercial, d'accord, je le vois. Et les radars comme ils sont faits, c'est-à-dire on met un poste fixe, eh ben je suis désolé, ça ne sert strictement à rien. Des gens par inadvertance se font quand même avoir. Moi, je pense qu'il faudrait développer 100 fois plus les radars tronçons.
Les radars tronçons, d'ailleurs, Christophe Bourreau, en un mot pour ceux qui connaissent
les radars tronçons, on calcule votre vitesse moyenne entre un point A et un point B. Voilà,
il y a quelle vitesse un point d'entrée, un point de sortie.
Voilà, et quand même, en un an, le rendement a été multiplié par 2,5. Donc, c'est effectivement efficace, mais ils vont être amenés à disparaître au profit des radars chantiers, ce qu'on appelle les radars chantiers, c'est-à-dire les radars qu'on peut déplacer sur la route. On disait radar chantier parce qu'ils étaient disposés sur les endroits où il y avait des travaux sur autoroute, par exemple. Mais ça se multiplie et ils flashent en moyenne 14 000 fois par appareil, c'est-à-dire deux fois plus que les radars classiques. Donc, il devrait y en avoir à peu près 800. On va passer de 600 à 800, voire 1000 dans les prochains mois, les prochaines années pour ces radars autonomes.
Merci Christophe Bourreau, c'est sympa de nous avoir accompagnés. Merci. Les auditeurs ont la parole, spécialiste auto à RTL et on le retrouve bien évidemment sur M6 pour Turbo. Merci Christophe et merci à tous ceux qui nous ont appelés, Pascal, Lagdar, Cédric, Frédéric, Cyril, Laurent, Daniel et j'en passe, mesdames, messieurs. On va dans un instant parler d'un fait majeur. Ces violents orages de grêle qui se sont abattus sur la partie nord du pays. La taille d'une balle de tennis, nous a-t-on dit. Une femme de 57 ans est morte. Il y a aujourd'hui, ce matin, en France, des sinistrés, des victimes des intempéries. Et c'est rien de le dire. Vous nous appelez au 3210. Je veux vous entendre. A tout de suite.
Jusqu'à 14h30, Éric Brunet vous donne la parole sur RTL.
Hello everybody, it's Ryan Gosling. J'ai eu la chance de voir le film Un petit truc en plus de mon ami Artus. J'ai rigolé énormément et c'est beaucoup de l'émotion. C'est vraiment un super film. Merci Ryan. Si comme Ryan Gosling vous voulez découvrir Un petit truc en plus, c'est en ce moment au cinéma. Je vous fais des bisous. Un petit truc en plus, un film Nutri-Score A. Attention, ce film peut contenir des traces d'Alice Belaïdi et Clovis Cornillac.
Avec RTL.
Oh,
Mince, une fuite, en plein yoga. Ah mais ouf, je peux me donner à fond sans crainte maintenant avec Always Discreet. Ça retient toutes mes fuites urinaires et je me sens protégée dans toutes les situations. Always Discreet, protection fiable, discrétion incroyable. Dispositif médical.
Bien, j'ai parcouru votre CV, c'est très impressionnant. 12 ans d'expérience dans de grands groupes, hein, comme dans une PME. Vous êtes expert en comptabilité, marketing, sécurité informatique, ressources humaines. Vous parlez anglais, chinois, hindi. Vous pouvez commencer quand ?
Désolé, le mouton à 5 pattes n'existe pas. Mais heureusement, sur APEC.fr, vous trouverez des solutions et de l'aide pour recruter le candidat qui correspond à votre TPE-PME. Rendez-vous sur APEC.fr, c'est gratuit.
APEC, donnez de l'élan à votre avenir.
Carrefour. Pour les French Days, avec 100 euros de remise immédiate et 20% d'économie créditée sur votre carte Carrefour, le téléviseur Samsung LED 4K 145 cm revient à 399,99 € au lieu de 599,99 €. Et c'est jusqu'au 13 mai dans vos hypermarchés Carrefour et leur drive. Carrefour, on a tous droit au meilleur. Limité à 1800 pièces, référence TU58-CU7105, garantie légale 2 ans, détails sur carrefour.fr.
Jusqu'à 14h30,
les auditeurs ont la parole
avec Éric Brunet sur RTL.
Mes chers auditeurs, mes chères auditrices, je ne sais pas où vous êtes là, mais tendez l'oreille, j'ai quelque chose à vous faire écouter. Écoutez bien. Alors ça, ce sont des grêlons qui s'abattent du côté de Roissy sur la carlingue d'un avion. Et c'est un son qui a été enregistré cette nuit. C'est dingue, on le réécoute. Ben voilà. Et il faut qu'on parle, Lisa Marie, de ces violents orages de grêle qui se sont abattus plutôt sur la partie nord du pays.
Oui, des orages qui ont fait une victime dans l'Aisne. Une femme de 57 ans est morte à la suite d'une coulée de boue qui a complètement détruit sa maison. Ailleurs, on constate les dégâts. Les orages étaient extrêmement violents. Il y a eu 23 000 impacts de foudre en quelques heures sur le nord et l'est du pays.
C'est fréquent. Ça, Peggy Broche est avec nous, journaliste météo à RTL. Merci d'être resté dans les auditeurs. Rebonjour Peggy.
Rebonjour.
C'est un épisode qui a touché qu'une partie du pays.
Oui, hein. Le nord et le nord-ouest du pays, et qu'on avait prévu de toute façon, que Météo France avait bien prévu, puisqu'on avait signalé ces départements en vigilance orange, et on avait bien précisé que c'était des orages forts, avec localement de la grêle. Le problème, c'est qu'on ne peut pas être précis là où la grêle tombe précisément. Et c'est vrai que ce sont des épisodes intenses où on a de fortes pluies, beaucoup de grêle en très peu de temps. Par exemple, dans la Loise, on a eu de l'équivalent de 2 semaines de pluie en 2 heures.
Beaucoup d'appels, je vais prendre Daniel pour commencer. Mon cher Daniel, bonjour.
Bonjour
Daniel. Oui.
Bonjour.
Oui. Qui est Daniel ? Que faites-vous dans la vie ?
Alors, Daniel Étienne Defay, je suis vigneron au château de Chablis, 15e génération du nom, voilà. Et père de Paul-Étienne Defay, vigneron aussi à mes côtés.
Et Chablis qui a été particulièrement touché.
Ouais. Ah oui, on peut estimer à 80-85%.
80-85% de pertes ?
Oui, et de pertes sur cette année. Mais les pertes seront également visibles sur le millésime prochain, parce qu'on n'aura pas de bois de taille. Donc c'est une véritable catastrophe, c'est un désastre. Moi, dans ma carrière, en 40 ans...
Vous n'avez jamais vu ça ?
C'est le pire que j'ai vu. C'est le pire
en combien de temps
sur mes 40 derniers millésimes, c'est le pire que j'ai vu.
En quelques heures ?
Ah, ça a duré 7 minutes.
Oui, c'est ça.
7 minutes.
Très intense et en très peu de temps.
Qu'est-ce qui se passe donc techniquement ? Donc on a des grêlons qui sont gros comme des balles de ping-pong et qui hachent littéralement la vigne. Qu'ont-ils fait les grêlons ?
Alors, ils sont tombés côte à côte, c'est-à-dire qu'ils ont fait plus qu'hacher, ils ont coupé. Ils ont coupé le végétal qui faisait 15-20 cm et ils l'ont coupé. Les baguettes sont nues comme en hiver. Il n'y a plus rien. C'est détruit. Et puis, c'est comme il en est tombé beaucoup, parfois il y avait entre 10 et 15 cm. Alors, on avait l'impression de neige. Il y avait... Allô ?
Oui, on vous écoute.
Ah oui, vous m'entendez ? Ah oui, parce que tous les journalistes m'appellent. Alors, effectivement, c'est le même téléphone à chaque fois. Excusez-moi pour le bruit. Il y avait environ 10-15 cm de grêle, mais en fait, on avait l'impression d'être à la montagne avec de la neige. Et alors, après, ça a dévalé les coteaux de Chablis, parce que Chablis est un vignoble qui est tout en coteaux. Et alors, ça a arraché la terre, ça a arraché la terre, on voit les racines, donc il va falloir remonter de la terre, on va avoir des sommes inouïes pour remonter de la terre, tout en sachant qu'on ne produira pas. Ça a défoncé tous les chemins, espérons que la commune de Chablis fasse des efforts, parce que les goudrons sont soulevés, il y a des chemins qui sont impossibles à pratiquer. D'ailleurs, j'ai un de mes camions qui s'est viré dans un chemin ce matin, un camion de vigne avec des ouvriers, et qui s'est enfoncé dans les chemins. Ben voilà, c'est un désastre.
Ils étaient gros comment, ces grêlons? Ils étaient gros comment?
Les plus petits faisaient 2 cm de diamètre, et les plus gros faisaient 7 cm.
Ouais, 7 cm, c'est presque une balle de tennis. En tout cas, c'est plus gros qu'une balle de ping-pong.
Voilà, c'est ça.
Mais on se rend pas compte.
Sur le coup de l'émotion, j'ai dit une balle de pétanque. C'est un petit peu moins qu'une balle de pétanque, mais voyez, c'est un peu plus gros qu'une balle de ping-pong. Ouais. Voilà.
Mais dites, quand on fait ce métier qui est un métier de passion, d'amour, la vigne, ce matin, vous êtes effondré. C'est une gueule de bois épouvantable. Un lendemain de...
Pour être très franc, j'ai pas dormi de la nuit. Parce que le stress ne passe pas, quoi. Il est tellement puissant, ce stress, qu'on peut pas dormir. On a ça dans les yeux, on a ça dans la tête. Et puis, bon, moi, je suis papa. Et puis même grand-père. Et donc, on pense à ses enfants. On pense à eux parce que, comment vont-ils construire? Bon, évidemment, je suis là, mais avec sa maman, on est là. C'est très dur, quoi, vous voyez, et parce que les gamins, ils n'ont plus rien du tout, voilà. Donc on a une très très grosse peine, mais je relativise quand même, avec le recul de l'âge, on va dire, parce que il y a pire que ça, il y a les jeunes vignerons qui n'ont pas d'antériorité comme moi, qui n'ont pas de stock comme moi. Moi, j'ai 10 ans de stock, qui n'ont pas d'assurance parce qu'ils peuvent pas les payer, et qui n'ont peut-être plus de vin dans leur cave et qui vont à la fois perdre leur récolte, perdre leurs clients, et qui ne pourront jamais dire à leurs clients, je vais vous le vendre 70% plus cher parce que j'ai fait moins 70. Vous voyez? Alors ça, j'ai beaucoup de peine pour ces jeunes vignerons-là qui n'ont pas de famille ancestrale ou qui n'ont pas de stock constituant pour lisser la crise, pour niveler la crise.
Pour niveler la crise.
Voilà, parce que c'est une crise qu'il faut niveler. Voilà.
Merci beaucoup Daniel de nous avoir appelé. Merci pour ces quelques paroles et tous ceux qui vous écoutent, et nous sommes pas loin d'un million dans les auditeurs ont la parole. Eh bien, pense très fort, très très fort à vous, et on mesure la tragédie que cela constitue pour vous, pour les autres viticulteurs, pour vos enfants et pour ce travail, pour cette vigne et ces coteaux du Chablis que vous chérissez depuis tant d'années. Merci Daniel pour ce coup de fil. On va prendre Laurent également, qui est avec nous. Laurent, bonjour.
Oui, bonjour.
Vous êtes dans la viticulture aussi ?
Exactement, oui, je suis viticulteur également à Chablis. Très loin de mon collègue Daniel qui vient d'intervenir juste avant.
Je vous passe le micro dans une poignée de secondes, si vous voulez bien. On se retrouve dans une minute. À tout de suite.
Envoyez-nous vos messages sur l'application RTL ou appelez-nous au 3210.
50 centimes la minute.
En Pays d'Oc, grâce au cépage, on en sait davantage. Aujourd'hui, la parole au Pinot Noir, un cépage rouge qui n'a pas froid aux yeux.
Ici en Pays d'Oc, je me refuse à rien. Un apéro, un dîner, un barbecue, je suis toujours partant. Un conseil ? Un petit passage au frais me donne un vrai coup de fouet. Et sans casser mes arômes de fruits rouges.
Pays d'Oc, 58 cépages et une indication géographique protégée à retrouver sur nos bouteilles. Campagne cofinancée par l'Union Européenne et la région Occitanie. Pour votre santé, attention à l'abus d'alcool.
Ce dimanche, avec la super tirelire de 2 millions au Quintet Plus du PMU, ça va être super.
Ah bah t'as dit deux fois super.
Oui, mais ça sera vraiment super. Avec des super courses, des super chevaux.
Ah là t'as dit trois fois super.
Ah oui, mais je vais le dire encore, ça va être un super moment.
Ouais, bon en vrai je vois pas d'autre mot.
Ce dimanche, la super course fait la super tirelire. Tentez de gagner la super tirelire de 2 millions d'euros au Quintet Plus. PMU.
Voir conditions en point de vente PMU. Les jeux d'argent et de hasard peuvent être dangereux. Perte d'argent, conflits familiaux, addiction. Retrouvez nos conseils sur joueurs-info-service.fr et au 09 74 75 13 13. Appel non surtaxé.
Les auditeurs ont la parole avec Éric Brunet sur RTL.
J'ai plein de frissons, Peggy Broche, avec le témoignage de Daniel, ce viticulteur historique de Chablis qui était au bord des larmes et qui nous disait, ben voilà, en 40 ans, je n'ai jamais vu une telle destruction, plus de 80% de mes coteaux, de mes vignobles.
En 7 minutes.
C'est vrai que Météo France, en général, prévoit plutôt bien maintenant les épisodes, mais on prévoit des précipitations, mais on prévoit aussi des grêlons, de façon aussi précise.
Pas de manière aussi précise, on ne connaît pas la taille des grêlons qui vont tomber, mais on peut déjà situer sur certains départements, on sait qu'il y aura localement de la grêle. Et là, ça a été le cas, en tout cas, ça a été prévu par Météo France.
7 minutes et une vie professionnelle pratiquement détruite. Laurent, vous êtes également vigneron dans la région de Chablis, j'imagine que pour vous aussi, ça a été dur ces 7 minutes ?
Oui, en effet, oui, ça a été une petite période intense et stressante et déstabilisante, oui, ça a été plutôt flippant, même si on peut dire.
Quelle heure était-il d'ailleurs ?
Alors, il devait être 19h40, quelque chose comme ça, dans ces eaux-là, quoi. 19h40, 19h45.
Vous étiez prévenu, vous attendiez l'épisode de grêle ?
Bah oui, on avait eu les alertes et les prévisions de Météo France avertissant les averses de grêle qui étaient possibles dans notre secteur. Maintenant, la grêle, on ne peut pas s'en protéger de façon efficace parce que bah, y a aucun moyen de protection. Ou alors, il faudrait mettre des bâches sur les vignes rapidement. Mais bon, c'est irréalisable avec les surfaces qui sont en jeu. Mais oui, on avait eu ces prévisions. Maintenant, on espère toujours que ça passe à côté et puis qu'on soit un peu épargné par ces alertes et ces orages.
Qu'est-ce qui est arrivé donc vous à 19h40 hier soir sur votre vignoble à Chablis?
La même chose que chez mon collègue Daniel, les gros grêlons qui se sont abattus de façon soudaine et très rapide sur le vignoble et on n'avait que notre regard à apporter à ce qui se passait devant nos yeux, devant nos fenêtres de maison, devant nos vitres de voiture parce qu'il fallait aussi surveiller les vignes. Mais voilà, quoi, c'était quelque chose d'assez stressant, de flippant et de déstabilisant, quoi.
La nuit n'était pas tombée lorsque l'épisode s'est arrêté. Vous avez tout de suite mesuré l'ampleur des dégâts hier soir?
Après, c'est difficile. Bon, la nuit, en plus, c'est pas toujours facile de voir exactement le dégât que la grêle ait pu faire pendant cet épisode. Les mesures qu'on a pu faire, c'est ce matin au réveil quand on s'est un petit peu promené dans les vignes pour voir un peu tout ce qui s'était passé et voir un peu quel secteur était plus ou moins touché par rapport à d'autres. Parce que bon, la grêle a touché quand même de gros secteurs sur le vignoble chablisien, mais il n'a pas touché tout le vignoble chablisien.
Alors votre exploitation à vous?
Enfin, nous, on estime, bon, si vous voulez, Chablis est séparé en deux par une rivière qui s'appelle le Serein, et on va distinguer plutôt les rives droites et les rives gauches. Et puis, en fonction du placement des parcelles, l'orage de grêle a suivi un genre de couloir qui prend du sud pour monter vers le nord du vignoble. Et certains secteurs qui étaient vraiment sur le centre du couloir ont été détruits, comme disait Daniel, peut-être à 90, peut-être même plus de pourcentage par rapport à ce qu'il y avait déjà en place. D'autres secteurs ont été moins touchés, mais ont été tout de même impactés de façon un peu moins importante. Bon, c'est là-dessus où on va espérer que ces secteurs puissent quand même produire un peu de vin cette année, qu'on puisse quand même satisfaire notre clientèle nationale, internationale.
Vous imaginez.
Voilà, ça c'est quelque chose qui est presque plus stressant qu'autre chose, parce que tous les clients, on reçoit tout un tas de messages de nos amis, de nos clients et de la France et du monde entier en disant qu'est-ce qui se passe à Chablis, on est tous avec vous, etc., etc.
Ouais,
c'est réconfortant, mais c'est des fois un peu on ne sait pas trop quoi répondre.
C'est-à-dire que c'est réconfortant, mais quand on perd 60, 70, 80% de sa production, effectivement, les mots réconfortent, mais est-ce que c'est suffisant? Juste une chose, on en est où de cet épisode météorologique? On rappelle quand même, Peggy Broche, que nous sommes le 2 mai 2024. Ouais. Le 2 mai!
Et c'est vrai qu'on n'aura pas cette impression de printemps, en tout cas côté ciel, parce que côté température, ça commence à remonter, on va se rapprocher des normales de saison, mais côté ciel, on a encore une succession de perturbations pendant quelques jours. Alors tout le monde ne sera pas concerné de la même manière, mais encore pas mal de pluie, quelques orages également, et nette amélioration peut-être à partir de mardi, mais l'indice de confiance n'est que de 2 sur 5. Et mercredi, normalement, on devrait sortir de cette succession de perturbations.
On parle de Chablis, c'est dans l'Yonne, ce vignoble mythique, mais des tas de départements ont été touchés. Une personne est décédée avec une coulée de boue gigantesque dans le département de l'Aisne. On entendait tout à l'heure les énormes grêlons sur les avions au nord de Paris, à Roissy-Charles-de-Gaulle. Donc, vous avez compris, ça a quand même touché une bonne partie du nord de Paris. Merci Peggy d'être restée avec nous. Et nous voulions vous faire écouter, mesdames, messieurs, ces témoignages de viticulteurs chablisiens qui sont un peu désespérés, Daniel et Laurent, même si, on l'a entendu, Laurent est un battant, hein, mais bon, les perspectives ne sont pas très réjouissantes en ce qui concerne pour eux cette année 2023. Merci de rester avec nous. Dans un instant, nous allons parler d'un sujet SNCF qui va vous mettre en colère, mesdames, messieurs. Mais tout de suite, j'accueille Jean-Alphonse Richard.
Bonjour. Bonjour. Éric Brunet, bonjour.
Bonjour Jean-Alphonse, de quoi va-t-il être question à 14h30 dans l'heure du crime ?
Ben vous faisiez le tour des régions françaises, là on va aller en Moselle, à Beach, avec l'affaire Karine Schaff. 17 ans, elle a disparu après avoir chuté de son vélo. On va retrouver son corps 11 jours après dans une forêt voisine. Elle aurait été violée et tuée, puis on a essayé de mettre le feu à ce corps. Tout ça est un petit peu à la fois tragique et maladroit. Difficile de savoir ce qui s'est passé parce que Karine Schaff, elle n'avait pas d'ennemis. C'est une lycéenne de 17 ans qui passait par là tout à fait par hasard. Eh bien, on va mettre ensuite la main sur un couple qu'on va qualifier de diabolique parce qu'on ne va pas tellement comprendre ce qui s'est passé entre eux. Stéphane Crotte, Péroline Garino, sont-ils vraiment les assassins de la lycéenne et qui sont ces amants qui sont tout aussi étranges qu'inquiétants? Eh bien, l'enquête est à suivre. 14h30, c'est très vite, tout de suite, dans l'heure du crime.
Nous vous écouterons dans une poignée de secondes. Que va-t-il se passer ? Il y aura les infos de 14h, bien évidemment, et on va revenir quand même sur ces propos qui ont été tenus par des syndicalistes de la SNCF qui disent carrément « Nous venons de négocier avec la direction un accord, et cet accord, c'est un retour en arrière, en quelque sorte, c'est un nouveau régime spécial pour la SNCF. » Mesdames, messieurs, je vous attends au 3210. Vos réactions, à tout de suite. Politique.